pour la parole.
Alléluia. J'aimerais qu'on puisse étudier. Qu'est-ce qu'on a étudié la semaine passée ? Gloire à Dieu. Donc, on a étudié quoi ? Le Logos. Gloire à Dieu. Alors, j'aimerais juste vous exposer une discussion théologique rapide, parce qu'on va avoir beaucoup de versets bibliques aujourd'hui. Mais j'aimerais qu'on puisse voir la différence entre Logos et Réma. Écoutez bien, vous savez qu'on est à l'église, c'est pour écouter et être formé par la parole de Dieu. Amen. C'est pas juste pour faire un accomplissement religieux une fois et hop, ensuite on arrête. Vous voyez ? On est ici pour être construit par la parole de Dieu et vivre dans une victoire en conséquence de cette parole. Amen. Donc j'aimerais qu'on voie. Logos en grec, c'est le terme qu'on traduit généralement par parole ou discours ou raison. J'aimerais vous lire les constats que j'en ai faits. Il est souvent utilisé pour désigner une parole articulée, un raisonnement ou une déclaration. Dans le Nouveau Testament, Logos est utilisé de manière proéminente dans l'évangile de Jean pour désigner Christ lui-même. Donc Jean 1:1 qui dit « Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu », ça c'est Logos. Voyez, en théologie, Logos représente la parole de Dieu de manière générale et universelle. Il englobe les principes éternels, la sagesse divine et l'ordre cosmique de Dieu. En christologie, Logos est associé à la seconde personne de la Trinité, indiquant l'incarnation du Verbe divin en Jésus-Christ. Logos peut également désigner l'Écriture sainte dans son ensemble, considérée comme une révélation complète et finale de Dieu à l'humanité. Donc vous voyez, c'est ce qu'on a étudié la semaine passée. Logos, le message de Dieu, quand on fait un Logos. Alors on peut parler, bien sûr, et c'est du Logos, mais c'est un message qu'on transmet. C'est un ordre d'idées divines générales. Vous suivez jusqu'ici ? J'ai l'impression que vous regardez vos pieds. Tout va bien ? Ok. Maintenant, j'aimerais qu'on puisse voir Réma cette semaine. Je vous avais dit, il y a trois speeches qu'on doit voir. Trois types de speech. Trois types de discussions qu'on a avec soi-même. Donc, le premier, c'est Logos. C'est donc la parole de Dieu, on va dire, écrite. L'idée de Dieu, l'image de Dieu, le dessein de Dieu pour l'humanité. La parole de Dieu pour l'humain, dans sa parole. Les messages que Dieu nous envoie. D'accord ? Et la Bible dit que la parole, Logos de Dieu, habite richement en vous. Amen. Et la Bible dit que la parole croissait à Éphèse, au point qu'elle assujettissait toute la Macédoine. Ça, c'est le Logos de Dieu, la parole de Dieu, le message que Dieu a pour les humains. C'est très important, ça. Vous savez que Dieu a un message pour les humains ? Vous suivez, vous êtes là ? Gloire à Dieu. Donc, Dieu a un message spécifique pour les êtres humains. Et ce message est englobé dans le Logos de Dieu. Et tout qui Dieu est a été mis, tout ce message a été mis en Jésus-Christ qui a pris une forme humaine. D'accord ? Ok. Maintenant, j'aimerais qu'on puisse voir le réma de Dieu. Parce que le réma de Dieu, c'est donc un terme qui, en français, est aussi traduit par parole ou discours ou prise de parole. Donc, quand on lit en français, on ne voit pas forcément une grosse différence. Par exemple, la Bible dit que la parole a été faite chair en parlant du Christ. Donc, c'est le logos de Dieu, le message de Dieu qui a été fait chair. Vous voyez, donc ce message de salut, ce message de santé, ce message de prospérité a pris une forme humaine et a revêtu des membres humains. Vous comprenez ? Ok ? Maintenant, j'aimerais que l'on voie le terme réma. Définition et usage. Réma désigne une parole, un propos ou une déclaration spécifique. Il s'agit souvent d'une parole prononcée, d'un message particulier. Réma est utilisé dans le Nouveau Testament pour se référer à des paroles précises de Dieu adressées à une personne ou une situation spécifique. Donc, vous voyez, continuons juste. Par exemple, dans Luc 1:38, Marie répond à l'ange Gabriel « Qu'il me soit fait selon ta parole, selon ton réma ». Donc, le réma de Dieu, écoutez s'il vous plaît, le réma de Dieu est lié à la révélation de Dieu pour une donnée spécifique et un moment spécifique. C'est intéressant. Donc, une déclaration de Dieu qui n'est pas générale, mais qui est spécifique à vous. Dites à moi. Dites Dieu a des paroles spécifiques pour moi. Et il y a plusieurs applications. Réma se concentre sur la parole spécifique et immédiate de Dieu, souvent reçue par révélation directe, prophétie ou illumination personnelle de l'Écriture. Donc, vous devez remplir votre cœur de l'Écriture, le remplir à plus en finir. Et au moment où vous en avez besoin, Dieu va illuminer une écriture qui a été déposée dans votre esprit, qui a été déposée dans votre cœur, et vous allez ensuite pouvoir la proclamer avec force et puissance. Okay ? En contraste avec Logos, Réma est souvent perçu comme la parole de Dieu appliquée de manière personnelle et contextuelle, offrant direction et encouragement dans des situations particulières. La théologie charismatique met souvent l'accent sur Réma comme la parole vivante de Dieu, active et permanente dans la vie des croyants. Alors ça, c'est quelque chose avec lequel je suis moyennement d'accord, parce que la parole de Dieu, elle est toujours active, que ce soit le message global de Dieu ou la parole de Dieu adressée à vous. Donc le logos de Dieu, il doit être dans votre cœur richement, il doit être dans votre pensée richement. Vous entendez ça ? là, il y a une comparaison un petit peu intéressante. Le logos est la parole de Dieu en tant que concept universel, embrassant la vérité divine et éternelle. Réma est une parole de Dieu appliquée de manière spécifique et personnelle à une situation particulière. Ok? Alors, j'aimerais vous expliquer un petit quelque chose assez intéressant. Ce livre-là, qui est la parole de Dieu, qui d'ailleurs, plus vous le lisez, plus vous vous rendez compte que c'est vraiment Dieu qui a écrit ce livre, parce que l'application de ce livre dans votre vie quotidienne, elle va vraiment apporter une différence drastique. Donc, je laisse là, je suis pas à la place. Vous voyez, donc la parole de Dieu, elle est puissante et elle change notre manière de percevoir le monde. Elle change le message qu'on a. Vous voyez, chaque mot qui vient vers vous, chaque parole qui vient vers vous, qu'elle soit logos, rhéma ou l'autre qu'on va voir la semaine prochaine, elle fait en vous une image. Toutes. Et l'image que vous avez, elle va agir directement sur votre manière de vivre et votre manière de répondre aux circonstances auxquelles vous êtes confrontés. Vous n'imaginez pas le genre de choses qu'on peut dire qui sont contre les Écritures. Mais j'aimerais qu'on voie quelque chose. Parce que l'Ancien Testament, ce livre merveilleux, il est divisé en deux sections, d'accord? Ancien, Nouveau Testament. L'Ancien Testament, il a été écrit en hébreu antique, d'accord? Il a été écrit ici, on va dire ça c'est le temps hein, pour vous, hébreu antique, d'accord? Ensuite, il y a eu les Grecs, on pense que c'est des Égyptiens qui l'ont fait, qui ont traduit ce texte d'hébreu antique en grec, qu'on appelle la Septante. D'accord? Vous suivez jusqu'ici? Et ensuite, donc ici, ça c'est la Septante. Et aussi, maintenant, il y a les Grecs, pardon, l'hébreu qu'on appelle massorétique, qui lui est une traduction plus moderne en hébreu, qui pour nous est ancien aujourd'hui, mais qui à l'époque était moderne, de l'hébreu antique. D'accord? Donc la source originale de la Bible en hébreu antique, on en a quelques fragments, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc en hébreu, on a l'hébreu massorétique, qui historiquement est plus jeune que le texte grec. D'accord? Parce que le texte grec a été traduit avant la mise à jour en hébreu massorétique. C'est comme si je disais, imaginons un écrit en vieux français des années 1400, que quelqu'un le traduit en anglais en 1700 et que moi je le mets à jour en 1900 avec le français moderne. Donc imaginons que l'écrit original disparaît. Celui en anglais est peut-être un peu plus précis au niveau historique. Vous suivez jusqu'ici? Donc moi j'aimerais qu'on voie, parce que dans l'Ancien Testament écrit en grec, ou plutôt traduit en grec, c'est ce qu'on appelle la Septante. Très importante cette traduction parce qu'elle nous donne des points de vue assez intéressants dans des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc t'es prêt pour les écritures parce qu'on va en avoir là. Darby. Que du Darby aujourd'hui. Parce que vous êtes fort et intelligent. Le Darby, c'est une version qui est très vieux français. Mais elle met en évidence des choses qu'on ne voit pas toujours dans les autres. Quand on dit version, soit dit en passant, ce n'est pas des versions différentes de la Bible. Hein. C'est des versions différentes de traduction de la Bible. Hein. La Bible elle-même, c'est la même. Par exemple, des fois, il y a des gens qui ont traduit la Bible d'une manière un peu plus courante, c'est-à-dire qu'on puisse lire tous les matins sa Bible tranquille sans trop réfléchir. D'autres qui ont fait des traductions qu'on appelle plus intellectuelles, d'autres qui ont fait des traductions qu'on appelle contextuelles. Les traductions contextuelles, ils essaient plus de retransmettre le message global. Après, il y a la traduction littéraire, où ils vont essayer de traduire vraiment, mais mot à mot presque. Et il y a la traduction mot à mot, puis elle, c'est un peu dur à lire. C'est vraiment du mot à mot. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas du tout de forme des phrases. Est-ce qu'on peut avoir Deutéronome, chapitre 6 et verset 6? Parce que j'aimerais que vous compreniez que le rhéma de Dieu est une parole dans le maintenant de votre vie. Dans le maintenant, le now. Deutéronome 6, 6. Et c'est Deutéronome, pas Deutéronome, pour ceux qui disent. Je précise parce qu'il y a des gens qui ont cru ça une fois. Deutéronome, c'est un livre. OK? Donc, la parole de Dieu, vous voyez? C'est le rhéma de Dieu, la parole de Dieu qui vous est adressée à vous. Et c'est là la chose, c'est que la parole de Dieu, elle va rarement s'adresser de nulle part à vous. Elle va sortir de l'intérieur de vous. Vous voyez? Dites la parole de Dieu, personnelle, sort de l'intérieur de moi. Donc Dieu, il ne va pas soudainement vous dire une parole qui est complètement contraire à ses Écritures. Ça, c'est important, hein. Donc là, j'aimerais qu'on voit. Et ces paroles que je te commande aujourd'hui seront sur ton cœur. Aujourd'hui, notez bien le aujourd'hui. Ces paroles-là, c'est le terme rhéma, ici, pas logos. Vous voyez la différence? C'est le terme rhéma, donc c'est une parole pour maintenant, pour aujourd'hui. Ah, c'est quelque chose de merveilleux. Regardez, Genèse, chapitre 15, verset 1, cette fois aussi. J'aimerais que vous puissiez voir ces différences, parce que vous savez, le logo de Dieu, qui est le message général de Dieu, va conceptualiser qui Dieu est et ce que Dieu veut pour votre vie, à vous, dans votre cœur et dans votre pensée. Et ça va vous faire agir d'une certaine manière. Et à un moment donné, quand vous aurez besoin de proclamer la parole de Dieu, là, vous aurez à l'intérieur de vous, de quoi aller chercher pour proclamer cette parole de Dieu. D'accord? Après ces choses, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, disant « Abraham, ne crains point, moi je suis ton bouclier et ta très grande récompense. » La parole de l'Éternel, de nouveau là on trouve le terme en grec ancien, « Réma », merci beaucoup, Fatih qui suit. Donc « Réma », c'est-à-dire que la parole de Dieu a été adressée à Abraham d'une manière spécifique pour une situation. Vous voyez ? Et bien sûr, la différence c'est que cette parole, pour nous les enfants de Dieu, ne sort pas de nulle part, elle vient de l'intérieur de notre cœur. Vous suivez jusqu'ici ? Super. Vous voyez, c'est la parole de Dieu sur vos lèvres. Prenez psaume. C'est quoi ? Prenons d'abord Jérémie, chapitre 1, verset 4. Vous suivez ? Vous êtes là ? Cool. Jérémie 1, 4. Et la parole de l'Éternel vint à moi, disant, et après il dit son message. J'aimerais juste qu'on voit que la parole de l'Éternel, elle vient un jour pour une situation, pour gérer quelque chose. Et cette parole, le terme-là, c'est... Qu'est-ce que vous pensez ? C'est Logos ou Réma ? Réma, exactement. Donc le Réma de Dieu est la parole de Dieu pour votre situation spécifique maintenant. Mais il y a quelque chose dans le Nouveau Testament, il y a eu un changement de paradigme. Dans l'Ancien Testament, la parole venait. Elle venait à quelqu'un. Si on peut voir psaume 45, je pense que c'est le verset 1. Oui, verset 1. Mais voir verset 1 et 2 pour être sûr. Parce que vous voyez, dans l'Ancien Testament, la parole de Dieu venait du ciel. Pas. Vous voyez ? Et les gens écoutaient, ils en faisaient quelque chose. Dans le Nouveau Testament, ce n'est pas comme ça. La parole a été écrite et elle doit renouveler notre pensée. Regardez. Et comment est-ce qu'on est... Oh là, c'est merveilleux. Mon cœur bouillonne, d'une bonne parole. Regardez, d'une bonne parole. Je dis ce que j'ai composé au sujet du roi. Ma langue est le style d'un écrivain habile. Le style, ça veut dire le stylo. C'est un vieux terme pour dire stylo. Donc votre langue, quand vous parlez, elle va écrire la parole de Dieu sur votre cœur. Vous voyez ? Et en fait, ça j'aimerais qu'on comprenne. Donc vous avez la parole de Dieu qui est écrite. D'accord ? Le logos. Par exemple, dans le logos de Dieu, il y a une parole globale qui dit que Dieu aime l'humanité. D'accord ? C'est juste ou pas ? Mais est-ce qu'il y aura une parole de Dieu spécifique qui vous dit déménage à tel endroit ? Non. Ça, c'est une parole révélée de Dieu pour vous. Vous comprenez ? Dieu va vous guider énormément par la parole écrite, parce que c'est un manuel qu'on doit suivre. Mais votre vie doit être le résultat aussi de vos confessions. Regardez, mon cœur bouillonne d'une bonne parole. Donc, il y a une parole qui a été posée dans votre cœur. Vous comprenez ? La parole de Dieu, le logos de Dieu a été déposé à l'intérieur de votre cœur. C'est très important, ça. Hein ? Déposé dans votre cœur par vous-même en lisant. Gardez vos yeux sur les Écritures. Donc dans votre cœur, elles ont été déposées. La parole de Dieu vient, elle dépose. Par ses meurtrissures, j'ai été guéri, par exemple. Et soit dit en passant, ne croyez pas que Dieu récompense votre bon travail avec la santé. Hein. Ça, c'est faux. Hein. D'accord ? La santé divine est un droit, ce n'est pas une récompense. La prospérité est un droit, ce n'est pas une récompense. Hein. Ça, je le balance pour quelqu'un ici. Hein. D'accord ? La prospérité divine, la santé divine, l'avancement divin, la réussite absolue n'est pas une récompense. C'est un droit divin. Vous savez qu'en Suisse, les gens en prison, à ma connaissance, peuvent voter. Hein. C'est juste. Hein. Ils peuvent, pour autant qu'ils soient suisses, bien sûr. Hein. Ils peuvent voter en prison. Donc, même leurs erreurs ne les ont pas destitués de leur droit de citoyen pour voter. C'est la même chose en Christ. Vous voyez, il y a des récompenses en Jésus-Christ. Amen. La Bible dit qu'on aura des récompenses une fois arrivé au ciel et qu'on aura une couronne de gloire éternelle. En ce qui concerne la prospérité, la santé, la rédemption, vous voyez, la rémission des péchés, ces choses-là ne sont pas liées à ce qu'on a fait ou ce qu'on n'a pas fait. Elles sont liées à notre œuvre de foi en Jésus-Christ. Fini. Vous voyez, parce que des fois, il y a des pasteurs qui disent « Oh Seigneur, j'ai travaillé toute ma vie pour toi et je suis malade ». Oui, mais ce n'est pas une récompense, d'accord ? La santé divine, c'est un droit divin, d'accord ? D'ailleurs, la Bible précise que la santé divine est le pain des petits-enfants. C'est intéressant, ça. Hein ? Jésus le dit à la femme syrophénicienne qui vient après lui. Et Jésus lui dit, je ne vais pas guérir ta fille parce que tu n'es pas une enfant d'Israël, en gros. Et là, la dame, elle dit, et Jésus dit d'ailleurs, il n'est pas bon de donner le pain des petits-enfants aux chiens. Alors, ça paraît un peu violent, mais quand on décompose, on remarque que Jésus, il parle de la guérison comme étant le pain des petits-enfants. Donc il sous-entend que le fait d'être guéri est aussi simple et aussi immérité qu'un enfant qui mange du pain. La santé divine, c'est pour le chrétien bébé. Le chrétien qui ne marche pas dans la santé divine n'est pas un chrétien qui a encore atteint le statut d'enfant en ce qui concerne Dieu. Oui, et je pense qu'il y a très peu d'enfants qui sont méritants du pain qu'ils mangent. Vous voyez ? On leur donne parce qu'ils sont enfants, parce qu'ils ont droit. On est d'accord, hein ? Oui, vous suivez ? C'est la même chose pour la santé divine. C'est la même chose pour la prospérité. C'est la base de la foi. Et Dieu veut toujours ça pour nous. Gloire à Dieu. Donc mon cœur bouillonne d'une bonne parole. Vous voyez, il y a une parole de Dieu qui a été déposée dans votre cœur. Et votre cœur, il bouillonne sur cette bonne parole. Oh, vous méditez sur ces vérités. C'est pour ça, des fois, j'en parlais vendredi soir. Et la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 16. J'ai la pensée de Christ. Juste ça, vous pouvez bouillonner sur ça, mais des heures et des heures. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir la pensée du Christ ? Je suis d'une super intelligence. Je suis instoppable. Je n'ai jamais d'échec. Mon cerveau fonctionne continuellement et absorbe toutes les informations que je dois absorber. Vous voyez ? Pour ceux qui sont en période d'examen, il y en a 3-4 ici, je crois. Hein. Méditez sur cette vérité. Vous n'allez pas perdre votre temps. Hein. Vous avez la pensée du Christ. Qu'est-ce que ça veut dire avoir la pensée de Dieu ? Vous savez, quand on regarde le terme pensée, ça sous-entend l'intelligence logique. Vous vous rendez compte ? J'ai l'intelligence logique de Dieu en moi. Vous voyez ? Qu'est-ce que ça veut dire qu'on bouillonne sur ces bonnes choses ? Et après, il dit quoi ? Je dis ce que j'ai composé au sujet du roi. Donc, dans son cœur, vous composez quelque chose et vous commencez à le parler. Vous voyez, vous l'écrivez sur votre cœur. C'est très important, ça. Hein. Très important. Écoutez bien. Hein. C'est pour ça que vous devez être dans la parole de Dieu continuellement, parce qu'elle vous donne des informations sur le vrai, la réalité, la vérité. La réalité. Vous voyez, c'est très important, ça. Elle vous donne le vrai de la réalité. Et vous, ensuite, vous bouillonnez ça dans votre cœur. Et ensuite, vous dites à haute voix ce que vous avez composé au sujet du roi. Alors, du roi ici, c'est parce que dans le contexte, il parle de bouillonner pour le roi, le Seigneur. Vous voyez ? Mais là, vous pouvez bouillonner quelque chose dans votre cœur, qu'une parole vient à vous. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir la pensée de Dieu ? Imaginez juste, la Bible dit, vous savez que la Bible dit dans 1 Jean chapitre 2, verset 20, tu peux le mettre rapidement, 1 Jean 2, 20. La Bible dit que vous savez tout par l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir accès à toute connaissance par l'Esprit de Dieu ? Vous imaginez ce que ça... Vraiment, à part ça, hein ? Vous imaginez ce que ça sous-entend pour un enfant de Dieu d'avoir accès à toute la connaissance ? Et vous, vous avez l'onction de la part du Saint et vous connaissez toutes choses. Vous vous rendez compte ce que la Bible dit ? Si vous bouillonnez sur ça, si on peut revenir sur psaume 45, s'il te plaît. Vous bouillonnez sur ça, vous laissez cette parole venir en vous et vous la parlez, vous parlez un petit peu, vous dites « je suis béni de toute bénédiction spirituelle. Alléluia, je connais toutes choses, j'ai accès à tout savoir, je progresse de tous côtés. » Vous voyez ? Et vous écrivez cette parole sur votre cœur en la prononçant. Vous comprenez ? Et au moment venu, ce qui est écrit sur votre cœur, vous allez pouvoir le parler avec puissance. J'aimerais juste qu'on voie encore deux, trois contextes. 2 Rois, chapitre 23, verset 16. Regardez, vous devez écrire ces choses dans votre cœur. Dites, j'écris ces choses dans mon cœur. Et Josias se tourna et vit les sépulcres qui étaient là dans la montagne et envoya prendre les ossements des sépulcres et il les brûla sous l'autel et le souilla selon la parole de l'Éternel qui avait été proclamée, qu'avait proclamé l'homme de Dieu qui proclama ces choses. Et là, le terme parole, c'est réma. Donc vous voyez que la parole de Dieu, elle peut être proclamée par un humain. Donc la parole de Dieu vient à quelqu'un. Donc vous voyez, cette parole, elle peut être prononcée aussi par nous. Prenons rapidement 1 Pierre chapitre 1 verset 25. Vous voyez à quel point c'est important que le logos de Dieu soit écrit dans votre cœur pour que vous puissiez l'utiliser en temps voulu. Vraiment, c'est très important. Regardez ce que la Bible dit. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Or, c'est cette parole qui vous a été annoncée. Très intéressant, la parole du Seigneur, Réma, demeure pour toujours. Donc quand vous parlez, vous comprenez la parole de Dieu, Réma, c'est ce logos de Dieu, cette parole interne de Dieu qui a été déposée dans votre cœur et que vous parlez sur la situation X ou Y. Vous comprenez ? C'est très important que vous ayez la parole de Dieu. Oh, hallelujah. C'est tellement merveilleux ce qu'on est en train de voir. Je pense que vous ne devriez pas passer à côté. Hein. Regardez. Jean chapitre 15 et verset 7. Si vous saviez le terme rhéma en grec, vous savez qu'il veut aussi dire une chose créée ou une matière. C'est quand même dingue qu'on y réfléchisse. Vos mots sont des matières. Vos mots sont créateurs. C'est une force créatrice. C'est quelque chose de matériel qui peut être tangible. Vos mots sont des choses. C'est comme des graines que vous semez partout dès que vous parlez. Regardez ce que la Bible dit. Si vous demeurez en moi et que mes paroles rhéma demeurent en vous, comment est-ce qu'on les fait demeurer en nous? En les écrivant sur notre cœur, en les prononçant. La parole rhéma, c'est une parole qu'on parle. D'accord? On parle la parole de Dieu. Vous prenez ce livre des Écritures. De nouveau, psaume 1, qui est un de mes psaumes préférés. La Bible dit, le juste est comme un arbre planté près des cours d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Et tout ce qu'il fait prospère, tout ce qu'il fait réussit, est une réussite absolue. Regardez ça, c'est tellement merveilleux. Vraiment, c'est dingue. Regardez ça. Jean 6, 63, cette fois. Vous savez, tel Jésus est tel nous sommes. Amen. Regardez ce que les Écritures disent. C'est pour ça que vous devez être absolument attentif à avoir la parole de Dieu dans votre cœur pour pouvoir la parler. Santé. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne profite de rien. Les paroles que moi je vous ai dites sont esprit et sont vie. J'aime bien qu'on me distingue. Parce que vous, vos paroles ne sont pas nécessairement vie, mais elles sont esprit. Dites mes paroles sont esprit. Quand vous parlez, vous lancez des matières dans le monde spirituel. Vraiment, hein? Vous établissez des décrets. La parole de Dieu est sur votre bouche. Regardez. Romains chapitre 10 et verset 8. Regardez ça. C'est tellement important ce qu'on est en train de voir. Ne prenez pas ça à la légère. Hein. Mais que dit-elle? La parole, Réma, est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Qu'est-ce que vous avez remarqué là? Elle est où la parole? Dans la bouche. Donc vous parlez, vous construisez votre monde, vous redirigez votre monde avec la parole de Dieu, avec la révélation de Dieu. Et c'est pour ça que la parole logos écrite de Dieu dans votre cœur, richement, la Bible dit que la parole de Dieu demeure richement en vous. Pourquoi? Parce qu'au moment venu, vous allez piocher dedans pour pouvoir parler. Et cette parole porte du fruit. La parole de Dieu, regardez, la parole de Dieu dans la bouche du chrétien, c'est Dieu qui parle. D'accord? Donc quand vous parlez, vous établissez des choses spirituelles importantes, puissantes et tangibles. C'est-à-dire la parole de la foi, laquelle nous prêchons. Vous voyez? Son proverbe 18-21. Il faut comprendre quelque chose. Jésus l'a dit, hein, nos paroles, mes paroles sont esprit et sont vie. Le problème des chrétiens ou même de tout le monde, c'est que nos paroles sont toutes esprit. À part ça, il n'y a personne qui est exempt du monde spirituel. Hein. Ça, j'aimerais bien insister. Hein. Je sais qu'il y a des gens qui disent « je ne crois pas en Dieu », ça ne change pas qu'il existe. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne va pas le faire tomber de son trône si vous ne croyez pas en lui. Hein. D'accord? Vous suivez? Vous êtes là? Ok. Donc, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime mangera de son fruit. Donc, il est en train de dire, quand vous parlez, vous amenez soit la vie, soit la mort. Pas d'entre deux. Vous vous rendez compte des choses qu'on peut dire, des fois, j'entends. J'entends des choses, des fois, que les gens disent sur eux-mêmes qui sont fausses, archi-fausses. Juste dire une chose comme « j'y arrive pas » alors que la Bible dit « je peux tout par celui qui me fortifie ». Comment est-ce qu'on peut dire, c'est quoi, Philippiens 4, 17, je crois, de tête? Tu peux essayer, Philippiens 4, 17 ou 16? La Bible dit « je peux tout par celui qui me fortifie ». Et on prononce sur nous-mêmes des paroles de malédiction et de mort. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ce n'est pas dit la mort, la vie et d'autres trucs. Hein. C'est la mort ou la vie. Toute parole qu'on prononce est mort ou vie. Et il y a des gens qui vont prononcer sur leur vie des choses qui sont contraires à ce que Dieu dit et ça provoque la mort dans des situations. J'y arrive pas. Juste dire ça, vous êtes en train de... Regardons juste d'abord. Philippiens 4. Hein? 4.13, pardon. J'étais pas loin. Je puis toute chose en celui qui me fortifie. Écoutez, ça c'est du logos, hein. Ça c'est du écrit. Hein. C'est une parole écrite, ça, on est d'accord. Mais vous devez la voir, la mettre dans votre cœur. Elle doit habiter richement en vous pour que vous puissiez aller piocher à l'intérieur. Vous pouvez tout faire par Jésus-Christ. Dites, je peux tout. Rien ne m'est impossible. Car tout m'est possible. Et ça doit être la vérité qui conceptualise votre vie, juste sur ce point. Mais imaginez le nombre d'informations que vous avez dans un livre de plusieurs milliers de pages que Dieu a pour vous. Dieu a des informations pour vous. Il a une cohérence, globale dans sa parole. Et nous devons vivre en accord avec ce que sa parole dit et nous devons la parler. C'est ça la chose importante. C'est à vous de parler. Donc, ce réma, qu'il y a des gens qui disent c'est cette parole qui vient de Dieu de nulle part. Non, c'est une parole que vous avez mis dans votre cœur et que vous allez chercher. Et vous l'avez mis dans votre cœur en la parlant. Vous savez le nombre de fois qu'on fait des choses qui sonnent tellement juste spirituellement, mais qui sont bêtes. Si on peut juste prendre Luc chapitre 2, verset 19. Luc. C'est pour ça qu'on doit laisser la parole de Dieu nous former. C'est tellement important. Pourquoi les chrétiens ne laissent pas Dieu former leur vie? Pourquoi ils parlent d'une manière légère, sans réfléchir? Ça, c'est un truc sur lequel même moi, je dois travailler. J'ai remarqué des fois que je fais des blagues pour me marrer et puis c'est parler d'une manière légère. Je ne dois pas faire ça. Jésus, il a dit, toute parole légère que vous avez prononcée, vous allez devoir en rendre un compte. Même quand on lance une parole comme ça, on trompe notre cœur en disant que nos paroles ne sont pas puissantes. Et c'est des choses sur lesquelles même moi, je dois travailler. Quand je dis même moi, ce n'est pas que je suis pour autant une sommitude, mais regardez. Et Marie gardait toutes ces choses par-devers elle. Vous savez, le terme chose, là, c'est le terme réma. Donc, la parole, c'est des choses. Vous lancez des choses. Vous rendez compte que, vous savez, c'est comme, moi, je vois un peu ça. C'est comme, par exemple, une belle, magnifique pièce en pierre et que le sculpteur, il la sculpte, vous voyez ? Eh bien, les outils par lesquels on sculpte notre monde, nous, ce ne sont pas les outils qu'un sculpteur utilise, mais ce sont nos paroles. Elle sculpte notre monde. Vous savez, vos paroles sont puissantes. Dites, mes paroles sont puissantes. Et vous devez les prendre au sérieux, vos paroles, parce que tout dépend ce que vous allez dire, tout dépend ce que vous allez faire, mais surtout dire. Ça va commencer par ajuster le cours de votre vie en direction de vos paroles. Vous mettez votre parole, plutôt vous mettez le cours de votre vie en adéquation avec vos paroles. Vos paroles dirigent votre vie, littéralement. Vous savez, la Bible dit quelque chose d'assez intéressant. Elle dit, je ne me rappelle plus exactement où c'est pour ça que je ne peux pas vous dire le verset comme ça de tête. Peut-être que Fatih pourra regarder pour moi. La Bible dit que la langue est le plus petit membre du corps. Et derrière, il dit, tout comme le gouvernail d'un navire est le plus petit outil du navire, et pourtant, c'est avec lui qu'on dirige le navire entier. C'est avec votre langue que vous dirigez votre corps et votre vie entière. On ne peut pas parler n'importe comment. On est enfant de Dieu. Est-ce que vous avez déjà vu un ambassadeur qui se comporte comme un blaireau, vraiment qui fait tout et n'importe quoi, qui insulte des gens comme ça? Non, non, on est ambassadeur de Christ, on parle ce que Dieu parle, vous comprenez? On parle ce que Dieu dit, on fait et on dit ce que Dieu dit. Oh, c'est tellement merveilleux. J'aimerais qu'on puisse prendre une conceptualisation de cette vérité. Donc on résume, il y a la parole logos de Dieu, qui est le message global que Dieu a pour nous, qui peut être précis, hein. C'est pas parce que c'est un message global qu'il n'est pas précis, hein. Il est très précis quant à la prospérité, il est très précis quant à la santé, il est très précis quant à la réussite, la consécration, d'accord? Il ne faut pas non plus commencer à faire des choses du genre « Ouais, mais Dieu ne m'a pas dit ça » ou « Non, non, la parole de Dieu écrite, elle est absolue et finale, d'accord? Elle ne va pas être modifiée, elle ne va pas être changée, elle ne va pas être ajustée, d'accord? Donc, cette parole-là, elle vient, vous la méditez, vous la mettez dans vos cœurs, vous la parlez, vous dites « Alléluia, je suis prospère », vous pouvez réciter à haute voix des versets, vous proclamez sur votre vie ces choses, et vous écrivez ces vérités dans votre cœur. Et le moment venu où vous devrez parler la parole de Dieu sur situation X ou Y, vous saurez où aller chercher dans votre cœur pour la parler. C'est pour ça qu'on doit être rempli de paroles. C'est pour ça. Parce que la parole « réma » que vous prononcez, elle va avoir, c'est des choses, regardez, c'est tellement intéressant, ces choses par-devers elle. Elle gardait des choses, c'est des rémas. Il y a des choses de la parole. La parole de Dieu est une chose dans votre bouche, d'accord? C'est une puissance, c'est une semence que vous semez. Et au final, vous allez en porter du fruit. Hein. Vous savez que votre vie actuelle est le résultat de vos paroles et des paroles des autres. Aujourd'hui, votre vie, directement, est votre responsabilité. Si vous ne voyez pas la réussite que vous voulez dans votre vie, c'est de la responsabilité uniquement que de vous, au final. Vous pouvez dire « oui, mais on m'a fait ci, on m'a fait ça ». Au final, c'est à vous de corriger le cours de votre vie. Parce que peut-être que sur la sculpture, on a fait un faux mouvement, Mais vous, par la parole de Dieu et la puissance de Dieu, pouvez corriger ça. D'accord? Donc, aujourd'hui, vous n'avez pas d'excuses, je le dis avec beaucoup d'amour, mais vous n'avez pas d'excuses pour vivre hors de ce que Dieu a pour vous. Zéro. Parce que vous n'avez pas été élevé en Christ? Génial, vous êtes venu à Christ de toute façon. Et alors? Moi, j'étais enlevé en Christ et on m'avait appris à l'époque, quand j'étais petit, dans une église, des fausses choses. Il faut que je les apprenne. Voilà. Vous voyez? Il n'y a pas de gravité. Vous avez pris note un peu des versets, hein, j'espère. Hein. Voici les navires aussi qui sont si grands et qui sont poussés par des vents violents sont dirigés ça et là par un très petit gouvernail ou que ce soit que le veuille l'impulsion de celui qui les gouverne. Ainsi aussi la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici un petit feu, quelle grande forêt allume-t-il ? Donc votre langue, il paraît tout petit, ça paraît pas important. Ce que je dis, oh, c'est pas si important, mais non, vous voyez ? Non ! C'est puissant, vos paroles sont puissantes. Dites, mes paroles sont puissantes. Mes paroles changent des vies. Et je redirige ma vie par mes paroles. Gloire à Dieu. Vous voyez à quel point c'est important. J'aimerais qu'on voie encore une chose si merveilleuse. Vous voyez, c'est pour ça que la parole de Dieu, elle doit devenir personnelle à vous. On va dire que cette réma, c'est vraiment la parole de Dieu personnelle. C'est la parole de Dieu personnelle. Dites personnelle. La parole de Dieu personnelle pour moi. Et vous voyez, vous l'attribuez et vous agissez en conséquence. C'est très important. Pourquoi est-ce que le chrétien moyen ne lit même pas sa Bible ? En bref, si on peut avoir Hébreux chapitre 13, versets 5 à 6, je pense. Regardez, là on voit l'application personnelle d'un passage des Écritures dans ce passage ici. Vous êtes là toujours, allô ? Gloire à Dieu, vous êtes puissant ? Vous êtes prospère. Vous voyez à quel point c'est important que vous laissiez Dieu vous conceptualiser. Pourquoi est-ce qu'on vit hors de ce que Dieu dit ? C'est une honte pour un enfant de Dieu à part ça. Hein. Vous vous rendez compte, l'Esprit de Dieu vit en vous, vit en nous et on passe à côté de ce que Dieu a pour nous. Que votre conduite soit sans avarice. Est-on content de ce que vous avez présentement ? Car lui-même, il a dit, donc Jésus-Christ, je ne te laisserai point et je ne t'abandonnerai point. Stop, juste une seconde. Donc là, il mentionne un passage des Écritures. Il mentionne un logos. Il mentionne un message global des Écritures. Donc là, il dit, voilà, Dieu dit ça. Mais regardez le verset suivant. En sorte que plein de confiance, nous disions quelque chose. Donc la parole de Dieu, elle vient à vous, d'accord ? Et grâce à cette parole de Dieu, vous, plein de confiance, vous commencez à dire autre chose. Et regardez ce qu'il dit. Est-ce qu'il répète le verset un par un comme ça ? Je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai point. Si on peut juste revenir au verset 5. Regardez le verset 5, il dit bien, je ne te laisserai point et je ne t'abandonnerai point. Nice. Est-ce que quand il parle au verset 6, il dit l'exacte même chose ? Verset 6. Non, il dit, le Seigneur est mon aide et je ne craindrai point. Que me fera l'homme ? Vous voyez ? Donc lui, il dit, la parole de Dieu est venue. Elle a dit, je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Et lui, il avait pondéré sur ça. Il avait bouillonné sur cette vérité. Et il a commencé par dire quelque chose lui-même. Il a dit, le Seigneur est mon aide et je ne craindrai point. Que me fera l'homme ? Donc il a dit, vu que Dieu est avec moi, qu'est-ce qu'on peut me faire ? Il a commencé à méditer et lui, il a parlé ensuite. Vous voyez ? C'est ça l'œuvre de la parole de Dieu. Donc il a prononcé la parole sur sa vie. C'est très, très important ces choses-là. C'est des vérités cruciales qui sont le reflet de ce que Dieu veut faire avec la parole logos dans votre cœur. Elle habite richement. Et ensuite, vous, vous la comprenez, vous la méditez, vous la savez. Vous savez que l'apôtre Paul, il a écrit ça comme ça. Hein. Vous savez comment on faisait à l'époque des lettres ? Il y avait un scribe. L'apôtre Paul, il parle. Et les gens, ils écrivaient ce que l'apôtre Paul disait. Puis après, hop, ils envoyaient. On en a d'ailleurs une preuve. C'est qu'à un moment, il dit, et je signe cette lettre de ma propre main ici. Ça veut dire que, à la fin, il a sûrement dit, ben, vu que je sais écrire, je vais signer moi ici. Et il a signé un truc. Ok. Donc là, vous voyez, l'apôtre Paul, il faisait son truc, il parlait, le scribe écrivait. Et là, tout d'un coup, il dit, alors, je pense qu'il relisait tout, on est d'accord. Hein. Et là, tout d'un coup, il dit, c'est comme ce passage des Écritures qui dit, je ne vous laisserai point, je ne vous abandonnerai point. Donc ça, c'est un message global. Et il le connaissait par cœur, il l'a sorti comme ça. Il a dit, afin que nous puissions dire avec confiance, plein de confiance, le Seigneur est mon aide et je ne craindrai point. Comment est-ce qu'il arrivait à un constat pareil ? Parce que la parole de Dieu qui avait été déposée dans son cœur par lui-même, ce n'est pas Dieu qui l'a fait, hein, c'est lui qui l'a fait. Et il a pu prendre cette parole et la parler en conséquence d'une situation spécifique. Vous voyez à quel point c'est crucial d'avoir la parole de Dieu dans votre cœur. Dites, j'ai la parole de Dieu dans mon cœur. Vous devez avoir la parole. Le logos de Dieu doit être conceptualisé dans votre cœur et doit ensuite, une fois que vous l'avez, vous méditez, vous pondérez, vous bouillonnez sur ces choses et vous les savez, vous les écrivez dans votre cœur. Vous dites, alléluia, il ne me laissera point, il ne m'abandonnera point. Vous parlez ça. Et au bout d'un moment, vous êtes tellement plein de confiance que vous pouvez dire quelque chose qui semble être un petit peu hors sujet, mais qui ne l'est pas, qui est le résultat de votre méditation du logos. Donc, vous méditez la parole de Dieu écrite, d'accord ? Ensuite, vous la parlez et elle porte du fruit. Dites, je porte du fruit pour le Seigneur. Je suis plein de bons fruits. Au nom de Jésus. C'est ça la vie du chrétien. C'est pour ça que vous devez être dans les Écritures encore et encore et encore. Un chrétien, il y a des chrétiens qui ne lisent pas leur Bible pendant une semaine. Vous vous rendez compte de la honte que c'est ? Ce n'est pas une honte pour Dieu. Hein. Dieu, il vous aime. Et d'ailleurs, j'ai bien expliqué, la santé divine et ces choses-là sont gratuites. C'est un droit en Christ, n'est-ce pas ? C'est un droit de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Donc si vous ne lisez pas votre Bible, c'est juste que vous n'allez pas en jouir. Mais en soi, ça reste vos droits en Jésus-Christ. D'accord ? Vous êtes là ? Dites, je suis puissant et fort. Dites, je suis instoppable. Je réussis tout ce que j'entreprends. Au nom de Jésus-Christ, je suis un succès. Je suis l'influence de mon monde. Et je change les cœurs par la parole. Gloire à Dieu. J'aimerais qu'on puisse faire le dernier chant de louange. Donc levez-vous s'il vous plaît. Qu'on puisse louer Dieu de tout notre cœur, le seul médiateur. Amen.